Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Ce soir, nous parlons de justice. Que signifie l'augmentation du recours au droit en matière scolaire ? À deux jours de la fin de la phase des vœux de Parcoursup, le 3 avril, c'est mercredi, nous nous intéressons au recours en justice contre la plateforme et plus généralement à l'utilisation de la plainte pour contester des orientations ou des résultats à des concours. C'est le sujet d'un livre riche d'enseignements, Contesté Parcoursup, coécrit par la sociologue Annabelle Alouche et la professeure de droit Delphine Espagnot-Abadi, nos invités ce soir. Alors qu'attendent les plaignants ? Est-ce le signe d'une judiciarisation de la société, d'une incompréhension des acteurs, ou faut-il reconnaître que la justice peut réparer ce qui n'a pas été fait par les procédures mises en place. L'ouvrage Contesté Parcoursup, en s'intéressant aux différents acteurs de ces conflits, élèves, parents, institutions, avocats, juges, montre comment l'investissement scolaire d'une partie des familles ainsi que des réformes jugées opaques, ce fut le cas en médecine par exemple, accroît le sentiment de ne pas s'être vu traité de manière équitable pour les premiers concernés. Ce qui s'y raconte dans ce livre, c'est aussi l'avènement d'un marché, la plainte, avec ses avocats spécialisés en éducation. Et puis, on a une analyse assez passionnante d'une forme de régulation aujourd'hui de l'éducation par le droit. Et puisqu'on parle de droit dans cet épisode d'Être et Savoir, commençons par revenir avec un professeur de droit public, Philippe Rimbaud, sur l'affaire du lycée Ravel. Gabriel Attal a en effet fait une annonce importante mercredi dernier, c'était le 27 mars.
J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. Je rappelle que cet entrisme, que ces coups de boutoir, ont fait récemment deux victimes dans la famille de l'éducation nationale, Dominique Bernard et Samuel Paty.
Bonsoir Philippe Rimbaud.
Bonsoir.
Vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, ancien professeur des universités, agrégé de droit public, agrégé, vous le restez toute votre vie. Première question, est-il rare que l'État porte plainte contre un élève, en l'occurrence une élève, qui a accusé le professeur du lycée Ravel de l'avoir brutalisé ? Le motif de la plainte, c'est la dénonciation calomnieuse.
Oui. C'est plutôt rare, et tant mieux, puisque en fait, le traitement pénal des affaires est quelque chose d'assez exceptionnel, qui correspond en règle générale à des faits qui ont une certaine gravité. Et en l'occurrence ici, il s'agit d'un signalement. On ne fait des signalements qu'en cas de crime ou délit. Donc on est bien dans une hypothèse qui n'est pas fréquente quantitativement, mais qui est importante pour marquer, c'est ce que souligne le Premier ministre, notamment le soutien au personnel, en l'occurrence au chef d'établissement qui avait été visé.
Alors cette plainte, elle n'a pas du tout été déposée tout de suite, ça a pris 4 semaines. Est-ce que ça va être, selon vous, un tournant ? Est-ce qu'elle va représenter un changement, je ne sais pas si je dois utiliser le mot stratégie, mais d'attitude de l'État par rapport à aux contestations de la laïcité, des règles qui sont dans le règlement intérieur de l'école, ces règles, comme l'interdiction du port de signes religieux.
Alors, un changement quantitativement, encore une fois, si on regarde l'ensemble des affaires qui peuvent exister, je ne pense pas de ce point de vue-là. En revanche, symboliquement, le fait de vouloir systématiser le soutien au personnel, notamment, parce que là, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est en train d'évoluer. Pendant longtemps, c'était les chefs d'établissement qui jaugeaient s'il était bon d'accompagner la plainte d'une victime, par exemple, en cas de harcèlement, en déposant plainte au nom de l'établissement. Là, il y a visiblement une tendance à aller plus systématiquement vers ce genre d'accompagnement.
Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est parce que ça touche un chef d'établissement et non plus un professeur? Est-ce que ça introduit un changement?
Je ne crois pas. Il y a un dispositif qui existe qui permet notamment à des personnels qui ont été attaqués, soit dans leur réputation, soit physiquement, de bénéficier de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Mmh. C'est-à-dire que ça leur permet notamment d'avoir leurs frais de justice pris en charge en partie. Cette protection fonctionnelle, si on regarde sur les deux dernières années, elle a été beaucoup plus mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 50% en deux ans de plus de demandes de protection fonctionnelle et le taux d'acceptation, si vous voulez, est resté stable. Donc on a vraiment une protection fonctionnelle qui est de plus en plus fréquemment accordée au personnel. Et les premiers personnels, pour revenir vraiment à votre question, ce sont les enseignants du secondaire et ensuite du primaire et enfin les chefs d'établissement, quantitativement.
Donc là, le droit vient d'une certaine manière au secours de l'école et de ses réglementations. Il y a des textes qui régissent le fonctionnement des établissements et le fonctionnement de l'institution scolaire en général. Ces textes, ce sont, au niveau de l'établissement, le règlement intérieur. Mmh. Quand on a des enfants, on le signe tous les ans. Je ne sais pas si tout le monde le lit en entier. Et puis, le code de l'éducation. En révisant un petit peu pour cette émission, je me suis rendu compte que le code de l'éducation, c'était quand même assez récent.
Tout à fait.
Les années 90.
Même pas. La partie législative date de 2000 et la partie réglementaire de 2004.
On a commencé à en parler dans les années 90.
C'est ça, tout à fait. Et en fait, si on regarde pendant longtemps, le droit à l'école, ça a été limité à un certain nombre de situations assez exceptionnelles, des situations notamment de mise en jeu de la responsabilité. Et là, pour le coup, ça fait assez longtemps, puisque vous avez une loi en 1937 qui prévoit la responsabilité des instituteurs.
C'est-à-dire les accidents?
Les défauts de surveillance dans la cour, etc. Donc, le droit intervenait et la judiciarisation n'intervenait quasiment que dans ces hypothèses-là. Et d'ailleurs, l'école partageait un régime juridique avec deux autres institutions qui sont d'une part l'armée, d'autre part les prisons. Et pourquoi elle partageait ce régime juridique? Parce que quand vous attaquiez le règlement intérieur, jusque dans les années 90, eh bien, il y avait une règle jurisprudentielle qui faisait que le juge se refusait à considérer que c'était suffisamment important pour que lui juge rentre dans ce contentieux. Et donc, il considérait que ça devait se traiter en interne à l'institution scolaire. Et encore une fois, c'était un régime qui n'était pas très favorable à ce que les élèves ou leurs représentants puissent attaquer les règlements intérieurs. Et donc, il n'y a quasiment pas eu de recours de ce type jusque dans les années 90. Et c'est autour notamment des affaires de foulard dans les années 90.
Donc de laïcité.
Voilà, qu'il y a eu l'occasion pour le Conseil d'État de faire un revirement de jurisprudence qui se produisait d'ailleurs dans les autres institutions à peu près de manière concomitante. Et à partir de ce moment-là, on a eu un peu plus de contentieux qui a été développé dans les établissements scolaires.
Avec tout un panel de motifs de recours au droit, je vais un peu rapidement parce qu'on va évidemment parler de Parcoursup, mais on sait que sont interdites les punitions collectives, d'imposer des orientations, des redoublements aussi, en tout cas que les familles et les élèves ont des droits et peuvent, par exemple, avoir un avocat quand il y a un conseil de discipline. Tout ça, ça a fait beaucoup grincer des dents dans les années 90. Et puis, au fur et à mesure, la situation s'est éclaircie, mais il reste une pomme de discorde. L'orientation est particulièrement Parcoursup.
Parcoursup, c'est stressant pour eux, c'est stressant pour les parents.
Franchement, je sais même pas comment vous faites pour dormir la nuit, sachant que vous avez mis que 3 ou 4 vœux.
Formuler ses vœux via Parcoursup, c'est facile. Vous avez la possibilité de candidater à l'ensemble des formations reconnues par l'État, soit 23 000 formations.
Faites vraiment attention aux dates, faites vraiment attention aux deadlines. Remplissez bien vos vœux au moment où vous pourrez remplir vos vœux. Ne faites pas comme moi qui avais oublié de cocher, qui a coché le dernier jour du n'importe quoi et qui s'est retrouvé en licence d'histoire, alors que finalement, même si j'aimais bien l'histoire au lycée, c'est pas forcément ce que je voulais faire.
Un petit montage de témoignages et d'une vidéo officielle de l'Éducation nationale signée Perret Legras, Delphine Espagnol Abadi. Vous êtes également professeure de droit public, co-autrice de Contester Parcoursup. maître de conférence, pardon, publié aux presses de Sciences Po. Ça paraît le 5 avril, deux jours après la fin, la phase des vœux. S'agit-il, quand on conteste Parcoursup, de faire reconnaître un préjudice et finalement ce que ressentent, parce que je crois qu'on est aussi au niveau du ressenti, les parents et bien sûr les élèves étudiants, c'est de se faire reconnaître en tant que justiciable.
Tout à fait. C'est se faire reconnaître en tant que justiciable et surtout un accès au droit, c'est-à-dire un droit au recours, hein, un droit à recours effectif, une contestation possible d'une décision de refus d'admission dans un premier cycle et comme on le verra plus tard ensuite en master. Donc c'est effectivement un long chemin quand même hein, d'une plainte qui peut commencer par un recours gracieux d'abord, un recours hiérarchique ensuite et éventuellement, quand on n'a pas obtenu satisfaction, un recours devant le juge administratif, c'est-à-dire aller voir le juge pour demander à ce que le juge vérifie que la procédure a bien été suivie dans le cadre de Parcoursup, que les commissions de sélection de Parcoursup ont bien examiné le dossier et qu'ils ont commis une erreur en n'acceptant pas l'étudiant. Donc c'est effectivement un chemin vers le juge pour accepter, pour arriver à ce que le juge reconnaisse le mérite académique du requérant.
Le mérite, on y vient tout de suite avec vous, Annabelle Allouche, puisque c'est un de vos sujets de prédilection. Vous avez écrit sur cette question. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférence en sociologie à l'université de Picardie, Jules Verne, co-autrice de ce livre, donc Contesté Parcoursup. Qui sont les plaignants? Parce que je pense que c'est un peu la partie dont vous êtes occupée dans le livre, c'est d'analyser, en fait, qui sont les familles, parce que ce sont bien des familles, hein, souvent pas des étudiants seuls. Donc, qui sont ces personnes qui font ce chemin, qui est assez long hein, et assez coûteux?
Absolument. En fait, ce qui nous a intéressé, l'un des premiers résultats de l'enquête, c'était vraiment de voir à quel point les familles étaient impliquées dans les recours. Et dans certains cas, que ce soit pour Parcoursup ou pour les études de médecine, les parents pouvaient porter plainte seuls. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire des recours gracieux, c'est-à-dire envoyer un mail au responsable de formation dans un premier temps, sans prendre l'avis de leur étudiant, en l'occurrence, puis faire un recours hiérarchique devant le rectorat de la même façon et au nom de l'étudiant, parfois en prenant son nom en plus, hein, et de la même façon devant le juge au nom.
Et on parle d'étudiants majeurs.
On parle à chaque fois d'étudiants majeurs. Et vraiment, l'un des résultats du livre qui nous a vraiment passionnés, c'est de voir à quel point les familles sont importantes dans les recours, et ce qui est en fait extrêmement bien connu en sociologie de l'éducation, c'est-à-dire que plus il y a une pression sur le scolaire et l'accès dans le supérieur, plus les familles sont impliquées, et évidemment les familles de classe moyenne et supérieure au premier titre. Et dans le livre, on voit effectivement majoritairement que ce sont ces familles-là qui portent plainte ou qui se plaignent de Parcoursup. Alors, ce qui est intéressant et ce qui nous a intéressé tout de suite, c'est pas seulement de s'intéresser à la partie contentieuse, c'est-à-dire à la partie juge administratif, tribunal, mais aussi à la partie des recours gracieux, c'est-à-dire faire la démarche simplement d'envoyer à des universitaires, à des responsables de formation, un mail en septembre en disant « Je suis désolé, mon enfant n'a pas eu la licence de droit de ses rêves, c'est un très bon élève, il a eu une autre licence, pourriez-vous s'il vous plaît accueillir mon enfant dans cette formation-là ? » Et à chaque fois, donc, on s'est aperçu que ça, c'était pour les plus jeunes, le propre des mères. Donc, il y avait quelque chose d'extrêmement genré qui correspondait parfaitement, en fait, en sociologie de l'éducation, à ce qu'on appelle l'encadrement du scolaire des familles et notamment des mères. C'est-à-dire que traditionnellement, les mères ont un rôle central dans l'orientation et dans l'encadrement des devoirs des familles. Et pour les plus jeunes, en fait, on retrouve ce rôle extrêmement genré d'encadrement du recours.
Donc on commence par faire les petites vignettes pour la lecture en CP, puis on termine par demander un recours gracieux, enfin si ça se passe mal. Ça veut dire que cette question du mérite, elle est aussi ressentie par les parents, c'est la méritocratie, même si on dénonce, vous dénoncez,
bien sûr.
Le on, c'est pas moi, même si vous dénoncez cette représentation du mérite scolaire, c'est quelque chose finalement qui est vécu par les parents parfois plus que par les élèves.
Absolument. Okay. C'est ce que Philip Brown appelle, donc un sociologue britannique, appelle la parentocratie. Il dit que finalement, dans le système scolaire contemporain, après les vagues de massification, ce qui se joue, c'est pas seulement la reconnaissance scolaire d'un niveau individuel de l'élève, mais aussi la capacité des parents à être des bons parents, entre guillemets, c'est-à-dire des parents qui correspondent à des normes sociales de parentalité, qui fait que pour les enquêtés qu'on a rencontrés, avoir un refus à Parcoursup ou avoir des listes d'attente à des milliers de places pour avoir une licence de droit, par exemple, dans une grande université parisienne, pour ne parler que de l'Île-de-France, en fait, ça revient en fait à remettre en cause la capacité d'être un bon parent. Donc, ce qui est au cœur de nos enquêtés, au cœur du discours de nos enquêtés, c'est vraiment ça. Dans une de nos enquêtés, disait justement, avec Parcoursup, avec le refus qu'on a opposé à mon enfant, je me sens déparentalisée. C'est-à-dire que Parcoursup ne juge pas seulement mon enfant, mais m'a jugé moi. Et on a aussi donc dans les entretiens des cas extrêmement forts en fait de mères ou de pères qui pleurent, qui sont extrêmement en colère à cause des plateformes.
Donc on répond au sentiment d'être méjugé par une plainte et éventuellement un recours devant la justice, puisque ça peut aller jusque-là. Je voudrais revenir avec deux spécialistes du droit. Donc, on a de la chance, vous allez bien pouvoir tout nous expliquer. Comment, finalement, on prend ces plaintes qui sont des plaintes familiales? Parce que ça m'intéresse quand même, ces plaintes qui sont portées parfois par des adultes, des parents, mais qui concernent un jeune qui est tout de même majeur et qui pourrait se présenter seul devant la justice. Est-ce que c'est très particulier comme cas de figure dans le droit, Delphine?
C'est le requérant, c'est l'étudiant, c'est-à-dire celui qui a été refusé et qui n'a pas été admis. Ce ne sont pas les parents, c'est-à-dire que juridiquement, l'enfant majeur, l'étudiant majeur, va porter plainte lui-même. Mais on a pu constater dans le cadre de l'enquête que cette quête du droit, elle est faite autant par le jeune lui-même que par les parents qui sont souvent derrière, parce que tout simplement, il faut le plus souvent avoir un avocat. C'est mieux, on peut aller en justice sans avocat, mais c'est quand même mieux. Donc il y a quand même une question de financement. Et l'idée du recours, elle vient surtout, en réalité, des parents, dans un premier temps. Que ce soit pour Parcoursup ou surtout sur un contentieux plus spécifique, qui est le contentieux de médecine.
Voilà. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière de recevoir la plainte de la part des instances,
des avocats.
Oui, des avocats, et puis après
non, parce que juges. Pour le juge, la famille n'existe pas. On n'a que le requérant en face. Ça change pour l'avocat. Ça change dans la relation avec l'avocat, c'est-à-dire qu'effectivement, l'avocat va, dans un premier temps, être en contact avec l'étudiant, mais aussi avec les parents, et donc ça va être une stratégie et expliquer aux parents ce qu'il faut faire, et comme à l'étudiant. Pour le juge, non. Seul l'usager existe, c'est-à-dire celui pour lequel le service public a été mis en place et la décision de refus opposée. Le parent n'existe pas pour le juge administratif. Donc ça n'a pas et le juge administratif n'a pas de relation empathique, je dirais, avec le requérant. Et donc pas avec la famille.
Donc c'est justement tout l'intérêt de nos entretiens avec les enquêtés, c'est qu'on voit que derrière la relation juridique, il y a en fait des relations sociales et des relations familiales qui se jouent, avec parfois en plus des fratries qui s'impliquent dans les recours. Et je voudrais aussi ajouter que on a beaucoup étudié les demandes de médiation, c'est-à-dire que vous avez des institutions comme le défenseur des droits ou le médiateur de l'éducation nationale.
Oui, parce qu'il y a une médiation spécifique pour Parcoursup, il y a même un numéro vert.
Absolument, tout à
donc,
fait.
Donc, avant d'arriver en justice, il y a beaucoup d'instances possibles. Le numéro vert, ce n'est pas vraiment une instance, mais en tout cas, on peut faire de nombreuses démarches.
Tout à fait. C'est vraiment ça qui nous a intéressés. Et d'ailleurs, la genèse du projet, elle part de là. C'est à la fois la multiplication dans l'espace public des plaintes de parents, par exemple sur une chaîne de télévision, un parent qui se plaint que son enfant n'a pas été accepté à Parcoursup malgré ses excellentes notes. Et par ailleurs, donc, comme vous l'avez dit, le développement d'un marché d'avocats qui répond en fait à la loi, puisque la loi OR, elle prévoit ce recours gracieux, hiérarchique et contentieux. Et ça, pour nous, en fait, c'est un marqueur très fort de l'évolution de la place de l'usager face au service public. C'est-à-dire que dans un contexte où l'État décentralise ses compétences, où l'État n'est pas forcément en mesure de garantir, pour des raisons aussi budgétaires, tous les droits de l'usager, on invite l'usager à se défendre lui-même, en l'occurrence à se faire justice lui-même. Et ça, c'est vraiment une transformation extrêmement importante.
Enfin, quelles que soient les raisons budgétaires, il faut aussi des personnes dans les universités pour lire les lettres, les recours, et pour éventuellement statuer de ce qu'il doit en être. Alors, il y a des lettres dans ce livre Contesté Parcoursup, elles sont extrêmement intéressantes, je ne peux pas les lire en entier. C'est émouvant. D'ailleurs, ce chapitre s'appelle « De colère et de sanglots ». C'est une étudiante qui dit, voilà, qui n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Dans mes spécialités, j'ai obtenu des résultats de 3 points supérieurs à la moyenne, me permettant d'avoir une moyenne générale de 16,49 sur l'année. Et elle détaille tout ce qu'elle fait, son investissement. Elle est déléguée de classe. Elle soutient une élève de seconde qui a, elle aussi, des très bonnes notes. Donc, on rentre vraiment dans beaucoup de détails de sa scolarité. C'est pourquoi, au vu de ma position de 7834e dans le classement Parcoursup, je voulais savoir s'il était possible de réétudier mon dossier. Et je vous joins mes bulletins de terminale. Il faut lire ces lettres dans les universités. Donc, il y a les lettres de motivation et puis il y a ces lettres-là. Est-ce qu'on a un personnel compétent? Et d'ailleurs, comment décider de ce qui est juste? Parce que des étudiants qui peuvent montrer de si bons résultats, une grande motivation et qui peut-être aidés de leurs parents, mais après tout c'est normal, écrivent ce genre de lettres, il faut quand même leur répondre. Philippe Rimbaud.
Oui, alors il y a de toute façon, d'abord tout dépend de la sélectivité des formations. Une élève avec d'aussi bons résultats, il y a un certain nombre de formations dans lesquelles elle serait prise sans aucune difficulté. Et c'est effectivement difficile à entendre quand on a d'excellents résultats comme cela,
On parle d'une licence de psychologie. Alors, je ne sais pas si cette licence-là est très...
Oui, mais elles sont... Voilà, ça fait partie, la sociologie, le droit, font partie des filières en tension, sur lesquelles il y a vraiment... dans certaines universités, en tout cas, des difficultés d'accès. Alors après, est-ce qu'il y a des gens qui étudient? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce sont les universitaires eux-mêmes, en ce qui concerne la sélection elle-même, c'est-à-dire au moment où on reçoit les dossiers via Parcoursup, eh bien, il y a des commissions qui se mettent en place selon la licence ou ça peut être la même chose, non pas par Parcoursup, mais dans le cadre du master. Ce sont des commissions de collègues qui vont étudier. Alors parfois avec le soutien d'un algorithme, mais parfois pas, c'est-à-dire...
Il
y a un outil d'aide à la décision qui commence à vous classer les étudiants, et puis il y a un certain nombre d'étudiants sur lesquels on est un peu limite. Et donc là, il faut trancher, et souvent on va se servir alors des lettres de motivation ou d'autres éléments du dossier.
Ce qui est vraiment très intéressant, notamment en parlant des lettres de motivation, c'est que le recours en fait fait écho aux lettres de motivation, puisque en ce moment c'est la grande période du dépôt des lettres de motivation sur la plateforme, et que la même démarche vient de s'achever pour le master. C'est que dans les recours, on voit finalement que certaines personnes l'investissent, certains élèves, mais surtout certaines familles l'investissent comme une sorte de deuxième chance en quelque sorte. Je n'ai pas compris pourquoi on m'avait refusé l'accès à cette filière-là. Et je me donne la chance, en quelque sorte, d'avoir une deuxième chance. Et du coup, du point de vue sociologique, on a énormément de sources via ces recours. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit dans la citation que vous nous avez fait le plaisir de faire de notre livre, on a tous les bulletins. Parfois, on a des bulletins scolaires qui remontent au collège. On a aussi donc toutes les stratégies, entre guillemets, des élèves et des familles pour faire valoir leur mérite. Donc, pour moi qui suis très intéressée, mais pour nous qui sommes très intéressés en sociologie du mérite, c'est passionnant comment on fait valoir son mérite à l'institution scolaire finalement. Parfois, on a des parents, et ça nous a vraiment beaucoup étonnés, qui non seulement mettent les bulletins de leurs enfants, mais aussi les bulletins du petit copain ou de la petite copine ou de l'ami qui a eu la filière souhaitée en médecine ou en droit, avec l'accord évidemment du lycéen, pour montrer, vous voyez la comparaison, X a eu cette filière-là, Y, mon fils ou ma fille, n'a pas eu ça, c'est pas juste. Parce que ses parents, en fait, sont dans une logique totalement méritocratique, et dans lequel on n'a eu que des grands méritocrates, finalement, et qui font que le refus, du coup, devient absolument ingérable et insoutenable. Quand on croit vraiment au mérite, en fait, que l'école, et notamment pour les classes moyennes et supérieures, que l'école nous dise non, ça devient ingérable, d'où le recours.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que la notation à l'école, c'est injuste. En tout cas, c'est pas aussi juste que ça pourrait l'être, puisque toutes les études sur la manière de noter montrent que, évidemment, qu'il y a une part de subjectivité. Et d'ailleurs, bah, c'est la vie. Enfin, c'est parce que les professeurs sont des humains. Il y a beaucoup de paramètres. On peut en discuter longuement, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre à admettre, parce qu'on apprend aussi à vivre en grandissant et peut-être en étant parent. Est-ce que ça, la justice peut le dire, le faire comprendre? Est-ce que montrer des bulletins en disant bah, « l'autre, il a des moins bonnes notes que moi et il a été admis, c'est pas juste », ça pourrait suffire ou est-ce qu'il faut expliquer aux plaignants que bah, finalement, des décisions, elles sont pas toujours
juridiquement, ça ne suffit juste pas. Juridiquement, ça ne suffit pas parce que ça supposerait
de montrer ses bulletins et d'avoir des bonnes notes.
Oui. Voilà, ça supposerait la comparaison. Pour montrer qu'il y a une rupture d'égalité entre deux candidats, il faudrait arriver à démontrer et avoir un outil qui permette au juge de démontrer quelle était la situation de chacun des candidats. Et ça, le juge ne peut pas le faire. Il peut d'autant moins le faire que le juge ne va pas se mêler de ce que les universitaires apprécient dans
au nom du principe de souveraineté des juges.
Oui, voilà. Parce que c'est un garde-fou très important, et c'est très bien expliqué dans le livre, les juges ne se substituent jamais à l'autorité. Là, tout le monde me dit non autour de la table. Il faut bien l'expliquer aux auditeurs. On ne peut rien attendre de la justice. On peut avoir...
Si, on va attendre plein de choses de la justice.
En termes de remédiation des notes. Sinon, on peut attendre. Voilà. Oui, je ne pense pas...
Parce que le juge ne s'estime pas compétent pour aller juger d'un résultat à la place
de l'université. Il y a une souveraineté des enseignants.
Mais il y a toujours un mais, quand même, puisqu'il y a quand même une jurisprudence sur la médecine, il y a peu de temps, où justement, les usagers ont eu gain de cause.
C'est très intéressant. On va y revenir. Venir en dernière partie de l'émission. Alors, vous savez que la procédure Parcoursup, elle se prépare. C'est pas aujourd'hui, enfin, j'espère pas trop que des lycéens terminales remplissent leurs vœux à toute allure. Normalement, évidemment, les professeurs principaux les accompagnent aussi. Et on doit parler d'eux, des conseillers d'orientation psychologues de l'éducation nationale. On a interviewé Joël Capon. Il est directeur du centre d'information, donc le CIO de Lens, dans l'académie de Lille. Il est secrétaire adjoint de l'Association des psychologues et de la psychologie dans l'éducation nationale, la PSIEN. Donc, il réalise tout un travail d'accompagnement est important pour les élèves de terminale, à qui il s'agit de faire comprendre que le procédé d'orientation n'est qu'une continuité qui commence avant et continue après. Mais faire comprendre tout ça, c'est vraiment un travail de psychologue.
On a l'impression, et peut-être que quelque part c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, qu'on joue sa scolarité, tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années, pour nous amener à un choix, et là ça va se transformer, l'essai va être transformé, ou va tomber à l'eau. Bon, il y a de nombreuses possibilités de se réorienter aujourd'hui, qui sont prévues, elles sont prises en charge par Parcoursup, et permettent de réduire la casse. Maintenant, on peut comprendre qu'un lycéen à qui on peut dire « ne t'inquiète pas, tu peux te tromper, tout le monde te dit que c'est super important, mais si tu te trompes, l'an prochain, tu pourras bifurquer ». Moi, je parle de bifurcation quand on se réoriente. Si je fais finalement un mauvais choix, ou en tout cas pas le choix parfait, et il est impossible de faire un choix parfait, mais si je ne fais pas le choix qui me contente, il y a une possibilité, je ne suis pas lancé dans un tunnel, j'ai la possibilité… Même pas de revenir sur mes pas, mais de prolonger mon parcours par une passerelle. Il y a de nombreuses voies de l'orientation dans le supérieur qui permettent d'enchaîner à la fin du premier semestre, entre décembre et janvier, sur une autre formation sans avoir perdu une année. Dans les autres motifs de stress, il y a celui de ne pas être traité avec humanité, vous savez, les fameux algorithmes. Ça aussi, on peut le débunker, puisque Parcoursup ne décide pas. Il y a un algorithme d'appariement qui met en face des souhaits, des vœux exprimés par les lycéens et les lycéennes. Et en face, il y a des établissements d'accueil qui vont eux aussi exprimer des souhaits, celui de voir venir vers eux les étudiants qu'ils ont sélectionnés. Mais la sélection se fait bien par des êtres humains. D'autres sources de stress, les deux dernières, c'est le stress de la brutalité de la réponse. Ça, on peut dire que c'est spécifique à Parcoursup. C'est vrai qu'on est devant un écran, on va découvrir une réponse et on n'a personne pour tout de suite nous expliquer le sens de cette réponse. Et enfin, le stress de l'attente de la décision, même si la procédure a été très raccourcie aujourd'hui, c'est toujours trop long, quand bien sûr l'enjeu est important.
Joël Capron, Les conseillers d'orientation sont psychologues. Et depuis Parcoursup, on a l'impression que cette dimension psychologique s'est considérablement accrue.
En effet, aujourd'hui, aller consulter un psychologue, même s'il est de l'éducation nationale, eh bien c'est permis. Un adolescent qui allait mal, avant, on n'aurait pas tout de suite pensé à aller lui proposer d'aller consulter un ou une psychologue. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, c'est une bonne chose. Et c'est anticipé de longue date, puisque les conseillers d'orientation sont psychologues depuis 1991. On est passé à ce moment-là du statut des conseillers d'orientation à celui de conseillers d'orientation psychologue. Depuis 2017, ils sont psychologues de l'éducation nationale, donc traitent effectivement la question de la santé mentale des lycéens, lycéennes, mais également des collégiens, collégiennes. Dans le premier degré, on a également des psychologues qui sont tenus de l'accompagner, mais qui traitent également de la difficulté et des troubles. C'est dans ce sens que les PSIEN, les psychologues de l'éducation nationale, peuvent véritablement s'attaquer à des difficultés de parcours et notamment œuvrent beaucoup pour l'inclusion des élèves porteurs de handicap.
Alors, est-ce que les conseillers d'orientation sont assez nombreux ?
Le chiffre qui est encore valable, c'est celui d'un psychologue de l'éducation nationale pour 1500 élèves en moyenne en France. Chacun peut se rendre compte que 1500 élèves, c'est 50 classes de 30. Il n'y a aucun enseignant qui n'en a autant. Évidemment, on pourrait se dire qu'un psychologue d'éducation nationale ne voit pas autant les élèves que les enseignants, mais on peut pas faire un travail correct, même simplement d'accompagnement, sur autant d'élèves. Donc, tout le monde vous dira, et ça fait partie des revendications de tous les personnes qui travaillent dans les centres d'information d'orientation, c'est effectivement d'être plus nombreux, de consacrer son temps au seul établissement sur lequel on exerce. Les PSIEN partagent leurs services sur deux, voire trois établissements, en plus du centre d'information et d'orientation, ce qui peut conduire d'ailleurs des familles à se tourner vers une offre d'accompagnement privé. Ces offres fleurissent et sont très chères. On le déplore, alors on ne déplore pas qu'elles existent, chacun a le choix de se tourner vers les services qui lui semblent bons, mais il y a quand même des sommes qui sont parfois rédhibitoires et que certaines familles ne peuvent pas engager pour l'accompagnement de leurs enfants. Cet accompagnement-là, il existe dans les centres d'information et d'orientation. C'est le service public qui le finance.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Et ce soir, nous parlons de droit et d'éducation en se posant une question. Est-ce que c'est Parcoursup partout, justice nulle part? Question que je vais formuler un petit peu autrement et au-delà de cette petite ironie de formule, c'est-à-dire, est-ce que finalement on n'a pas tendance aussi à prendre Parcoursup et les jugements scolaires pour une forme de justice qui serait rendue, et cette confusion est génératrice de souffrances et finalement de demandes de justice? Annabelle Allouche.
Oui, bien sûr, mais ça, c'est lié à la socialisation scolaire dans un système où l'école est obligatoire. On apprend à croire au classement scolaire, au jugement scolaire, et que le jugement qui nous est opposé est toujours juste, en fait. Donc, c'est lié au fait que dès l'école maternelle, enfin, bon, pas l'école maternelle, j'exagère un petit peu, mais très tôt dans notre vie, on apprend à respecter le cadre scolaire qui est aussi un cadre évaluatif, quelle que soit la forme de l'évaluation, que ce soit une note, un commentaire. Et donc, il y a un jugement d'un tiers, donc d'une autorité enseignante en général, qui s'oppose à nous. Mais effectivement, je pense qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui est lié vraiment à un contexte où, après trois phases ou trois vagues de massification scolaire avec un nombre d'étudiants et de diplômés qui est extrêmement important, un marché du travail extrêmement tendu, une pression et une crainte en fait de l'avenir chez les familles et les étudiants, qui est aussi tout à fait légitime et que les universitaires souvent partagent, il y a un investissement extrêmement fort dans la parole scolaire et dans la parole de l'université, des universités, des filières d'enseignement supérieur en général, avec une pression très forte pour accéder à certains types de diplômes. Dans le livre, on parle beaucoup du master comme étant le diplôme en fait le plus rentable sur le marché du travail. Du coup, il y a une pression extrêmement forte à l'entrée dans ces formations, parce qu'on sait que ça va avoir un effet sur les salaires, et ça en a un statistiquement parlant, tout à fait, sur les salaires et sur les trajectoires professionnelles.
Et comme il y a le filtre de la plateforme Mon Master, évidemment, là aussi, beaucoup de tensions et d'éventuelles contestations. Est-ce que c'est un nouveau champ qui s'ouvre, peut-être pas pour le droit, mais pour les professions judiciaires et les avocats en particulier. Est-ce que finalement, c'est un presque un marché avec ses spécialistes, Philippe Rimbaud, je vois acquiescer. Alors je vous laisse répondre en premier.
Oui. Alors sur le volet, c'est un nouveau champ du droit qui s'est structuré à partir du début des années 2000. Le droit scolaire, le droit universitaire également, s'est structuré sous forme de sous-spécialisation du droit administratif en quelque sorte à ce moment-là. Après sur le volet structuration des avocats, je laisserai plutôt Delphine répondre parce qu'il me semble que c'est plus ce qui
et
est abordé dans le...
C'est un chapitre du livre Delphine Espagnol-Abadie.
Oui, c'est à partir des années 2000 et de la codification du droit de l'éducation, le rôle le fait d'adopter d'un code de l'éducation, un droit constant, etc., en participer bien évidemment à l'ouverture d'un marché, de la connaissance de la règle et l'accessibilité de la règle. Alors, sur les avocats, il y a quand même le droit scolaire, le droit universitaire, ce sont par rapport à d'autres grandes branches du droit, le droit privé, le droit public, pour simplifier, c'est une sous-branche vraiment
c'est une
du droit.
Niche,
voilà.
Ça, hein,
c'est une niche, mais ce que l'on note, c'est que, et ce que l'on a noté dans le cadre de l'enquête, hein, avec les entretiens qu'on a pu faire dans le cadre des avocats, avec les avocats notamment, c'est que c'est un droit qui, quand même, attire un certain nombre d'avocats, de jeunes avocats, dont certains d'ailleurs sont devenus quasiment des spécialistes du droit de l'éducation.
C'est aussi quand on commence, quand on est avocat, on est collaborateur et c'est aussi une manière d'avoir ses propres dossiers.
Exactement, c'est l'accès aux dossiers. C'est-à-dire que ce que l'on a noté nous dans le cadre de l'enquête, c'est que souvent les avocats, jeunes avocats dans des cabinets où ils sont collaborateurs, arrivent par hasard au droit de l'éducation parce qu'en fait ce sont des dossiers parce que c'est un droit qui est peu connu, qui ne sont pas nécessairement très rémunérateurs d'abord, et ensuite qui ne sont pas nécessairement intéressants pour les grands avocats. Donc c'est le collaborateur qui va se lancer, et pour certains de ces collaborateurs, qui sont devenus des spécialistes vraiment de la question, et notamment des types de contentieux, par exemple le contentieux en master, ou le contentieux Parcoursup, ou le contentieux en médecine, par exemple.
Donc on peut avoir des avocats ultra spécialisés. Vous faites une typologie dans le livre des avocats spécialisés donc dans le droit de l'éducation, il y a les militants, ceux qui sont plus commerciaux, je reprends vos termes, hein. Et puis les experts hyper techniques. Alors je ne sais pas à qui vaut mieux faire appel, enfin je crois qu'on comprend un petit peu, mais comment vous avez compris cette différence entre ces avocats? Sont-ils si différents, d'ailleurs, Annabelle Alouche?
Ce qui nous a intéressé dans le rôle des avocats, c'est aussi qu'ils font partie de tout un écosystème dont font partie les PsyUN qu'on a entendu il y a quelques instants, mais aussi les coachs privés. On a parlé dans un article de marché de l'anxiété qui incluait ces coachs privés qui sont chargés en fait de préparer les familles et surtout les candidats à Parcoursup, par exemple. Et pour nous, les avocats, ça fait partie de tout un écosystème de nouvelles professions qui s'intègrent à ce moment clé d'articulation entre le lycée et la licence, ou entre la licence et le master, et qui participent finalement à une reconfiguration de...
L'avocat, c'est quand même quelqu'un à qui on fait appel uniquement si on a un problème.
Alors oui, mais en fait, ce qui est très intéressant dans les entretiens qu'on a eus, c'est que, évidemment, les familles vont faire appel à un avocat quand ils ont un problème, mais simplement le fait de se plaindre à un avocat peut être une fin en soi. Parce que l'avocat peut avoir aussi comme effet, finalement, d'orienter la plainte vers un certain type de procédure, et donc la colorier, finalement. Et ce qui est aussi très intéressant, ce qu'on a vu avec Delphine dans l'enquête, c'est de voir à quel point les universités sont aussi réceptives à l'intervention des avocats et parfois les attendent. Alors, je dirais pas comme le Messie, mais attendent en fait le contentieux pour pouvoir avoir plus d'éléments sur la réglementation relative aux plateformes.
Comme dans beaucoup de contentieux dans la vie, une lettre d'avocat, enfin j'ai jamais fait ça personnellement, mais apparemment ça marche bien, Philippe Rimbaud, oui. Sur cette place des avocats, donc même quand on ne va pas jusqu'au contentieux final.
En fait, l'avocat, il met en forme juridiquement, il délivre un discours du droit, en quelque sorte.
Donc on donne, comme c'est écrit dans le livre, une forme juridique, oui. À un sentiment d'injustice.
Oui, voilà, et ça c'est déjà effectivement un premier temps qui est souvent important, et ça va bien au-delà du droit scolaire, hein. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire le simple fait de recourir à l'avocat et de mettre en forme juridique, ça peut parfois aider.
Aider dans le sens où c'est une forme de reconnaissance?
Oui, en quelque sorte. Ouais. Et après, tout ça va de pair avec aussi un mouvement qui est un mouvement qu'on appelle parfois de subjectivation des droits. C'est-à-dire que c'est quand on reconnaît des droits à
quelque chose. Par exemple, le droit à la scolarisation en milieu ordinaire pour des élèves en situation de handicap. Le droit à la poursuite d'études dans le cadre du master. Dès lors que les textes multiplient les droits subjectifs, eh bien, c'est une sorte d'invitation à faire valoir ses droits, et donc ça va inciter les usagers de l'école ou de l'université à aller mettre en forme juridique devant un avocat, puis éventuellement devant le juge.
Et c'est là où on comprend que la société a complètement changé, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'on est la grande majorité des gens, et en tout cas moi, trouve inadmissible que des gens qui sont titulaires du bac ne puissent pas poursuivre des études dans le supérieur s'ils le souhaitent. C'est peut-être aussi une différence de perception entre les individus, les étudiants, et puis les instances qui peuvent les accueillir, parce que Parcoursup, ce que nous explique aussi Parcoursup, c'est qu'il n'y a pas de la place partout pour tout le monde. Et c'est bien là où ça frictionne, Delphine Espagnol-Abadie.
Oui, dans le prolongement de ce que vous dites et de ce que dit Philippe, c'est-à-dire que l'accès, limiter l'accès à l'enseignement supérieur via une plateforme ou limiter l'accès en deuxième cycle, c'est créer un nouveau rapport de l'usager à ce qu'il considère être un droit. Et c'est une subjectivisation des droits, c'est-à-dire un rapport individuel à la formation et au savoir et à l'accès à la connaissance. Et donc à partir du moment où on individualise ce rapport en reconnaissant un droit au recours effectif, en reconnaissant un droit à la scolarisation, un droit à la poursuite d'études, on modifie complètement le rapport entre l'usager, c'est-à-dire celui auquel on a imposé un certain nombre d'enseignements sans se poser de questions, et l'institution universitaire. Mais au-delà de ça, en posant le principe selon lequel il faut remplir un certain nombre de critères pour accéder à un premier cycle ou accéder à un second cycle, c'est-à-dire en instaurant une sélection à l'université, à l'entrée et le long des études, on revient sur tout un tas de principes, notamment les principes de la loi Savary de 84, qui considéraient que, effectivement, l'accès à l'université, dès lors qu'on était bachelier, était quasiment automatique, sauf pour des formations comme les classes. Donc, on est revenu sur un modèle.
C'est évidemment un des grands reproches qui a été fait à Parcoursup.
Voilà, mais le Conseil constitutionnel, comme les juges administratifs, n'ont jamais considéré que c'était une remise en cause du principe du libre accès. Et en fait, c'est ça qui se joue. C'est-à-dire qu'en transformant ce rapport à l'institution et à la manière dont on peut y rentrer, eh ben, on individualise.
Mais donc, la judiciarisation des conflits a de beaux jours devant elle, parce qu'on ne va jamais s'en sortir. Parce qu'on ne laissera pas, je pense, de côté la logique du droit à.
Tout à fait.
Et puis, les universités les plus désirables ou les formations, etc.
D'où la multiplication des plaintes dans l'espace public, pas forcément devant le juge, mais tout simplement au micro de certaines chaînes de télévision ou dans la presse. Et la multiplication, le sentiment de multiplication de la plainte, en fait. Et c'est ça qui nous a intéressé.
C'est-à-dire qu'on a envie d'entendre ces gens-là, peut-être, plus ou moins consciemment, ou envie de leur donner la parole. Je parle pas pour moi, Non, mais c'est intéressant aussi d'entendre les individus exprimer leurs difficultés. On va en écouter parce que c'est extrêmement intéressant et ça va nous permettre de continuer à avancer dans cette conversation. C'est un étudiant qui s'appelle Louis Kelbert. En fait, il a porté plainte contre la réforme des études de médecine. C'était en 2020. Il a aussi porté plainte avec un collectif PASS. Là, ils ont obtenu gain de cause, parce que évidemment, il y a aussi des collectifs, c'est pas que des individus. Les individus peuvent se réunir et il va nous expliquer assez rapidement, mais de manière à ce que les auditeurs se fassent une idée de ce qui s'est passé avec cette réforme donc du concours de médecine.
J'ai fait la première année d'études de santé en 2020, ou l'année de la réforme, et en fait, à la fin de l'année, ils nous ont fait passer un oral. Et au moment des résultats, en début juillet à peu près, eh bien, on a constaté des irrégularités assez importantes. Et donc, spontanément, il y a un petit collectif qui s'est formé, des étudiants qui étaient lésés par cette épreuve. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mener des actions en justice. La première n'a pas donné grand-chose parce qu'on n'avait pas beaucoup d'éléments à ce moment-là. Mais plus tard, grâce justement à la voie de la justice, on a pu avoir des documents. Et c'est seulement à partir de là qu'on a pu avoir des éléments qui sont allés dans notre sens.
Parce qu'un dossier judiciaire, ça se monte avec, évidemment, des éléments très précis.
Oui, exactement. Nos résultats, c'était, vous avez été pris ou pas. On n'avait pas de classement comme ce qui existait à l'époque. On n'avait pas les grilles de notation. On n'avait rien de tout ça. Et ce qui était vraiment très bizarre, c'est que L'épreuve dont je parle, c'était normalement quelque chose où on était préparé. Bon, alors, ça a été plus ou moins respecté en fonction de la faculté en France dont on parle, mais c'est-à-dire qu'il y avait vraiment eu des notes vraiment aberrantes. Par exemple, des gens qui avaient performé toute l'année. Donc, quand je dis performé, c'est environ 19 de moyenne, par exemple. À cette même épreuve, se retrouvaient avec une moyenne de 6. Et à cette épreuve-là, qui est normalement la continuité de notre année, les notes ont été divisées par 3 parfois. Et en fait, plus tard, en ayant rencontré des gens du corps enseignant, en fait, j'ai su que cette épreuve avait pour but de sélectionner, c'est-à-dire que ils n'évaluaient pas l'oral en fonction de la présentation. C'est-à-dire, comme je leur ai demandé, ils ne notaient pas votre présentation, ils vous donnaient soit une très bonne note, soit une très mauvaise. Et ils savaient que le coefficient vous éliminait ou vous prenait d'office. C'est-à-dire, ils m'ont dit quasiment cette phrase-là, oui, il nous fallait donner une note pour la machine. Comprenez, bon, si votre présentation valait 14, ça veut dire que vous êtes... On vous met 18, comme ça vous êtes pris, et si vous n'avez pas forcément performé, au lieu d'avoir 12, on vous met 6, comme ça on sait que ça vous élimine. Forcément, nous, on a eu les résultats en début juillet. Il fallait vite s'organiser pour pouvoir tenter quelque chose avant la rentrée ou assez rapidement, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'en assistant aux différentes audiences un peu partout en France, c'est là qu'on peut rencontrer les avocats qui sont plus ou moins spécialisés, qui ont peut-être mieux les contacts, notamment avec le Conseil d'État. C'est comme ça que le collectif a trouvé l'avocat qui nous a accompagnés au Conseil d'État. Et effectivement, avoir les témoignages qui viennent d'un peu partout en France, ça nous fait sentir moins seuls. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui avons été lésés. Et puis les réseaux sociaux, effectivement, chacun peut apporter un témoignage. Et puis on se retrouve assez facilement. Et puis ça permet d'avoir vraiment, chaque année, malheureusement, un nouvel arrivage de personnes qui se sentent lésées par la réforme. Si vous travaillez et que vous considérez avoir fait votre job, avoir réussi partout, avoir tenu toute l'année et qu'à la fin, comme ça, tout d'un coup, vous êtes éliminé, voilà, c'était dur. Donc maintenant, la réparation, c'est vrai que on n'attend pas grand-chose, voire rien du tout, mais au moins pour les personnes suivantes. C'est-à-dire qu'on savait que ça n'allait pas changer, que les prochaines promos allaient subir les mêmes vices de procédure et les mêmes injustices. Et voilà. Maintenant, on a continué et au bout de l'enquête, effectivement, en ayant rassemblé tous les éléments, on a eu des preuves. On a eu une affaire au tribunal de Strasbourg. Et sinon, le collectif national a aussi monté une action à l'échelle nationale qui est passée au Conseil d'État. Et effectivement, le Conseil d'État nous a donné raison. Donc, actuellement, le gouvernement doit revoir sa copie pour justifier ce qu'il entendait par ces épreuves de sélection, quoi. On avait de bonnes raisons de penser que nous avons été lésés.
Louis Kelber est aujourd'hui étudiant en deuxième année de médecine à l'Université libre de Bruxelles. En fait, il a pu réussir tout un tas de concours à l'étranger et on s'est parlé vraiment longtemps. Et c'était presque émouvant la manière dont il me disait « Mais oui, j'ai bien réussi là, j'ai été classé au là. » Et donc, dont il cherchait à me dire à quel point il avait du mérite scolairement, ce que j'étais tout à fait prête à croire, même au vu des notes qu'il avait obtenues en première année d'études médicales. Et finalement, ce que ça montre aussi, ce parcours, c'est que quand on porte plainte, quand on va loin comme ça, on ne le fait pas forcément pour soi, parce que ça passe très vite, des années d'études comparées au rythme de la justice, mais pour changer les règles. Alors déjà, est-ce que ça marche? Est-ce que lorsqu'il y a des plaintes collectives, est-ce que quand des demandes sont portées par parfois des individus, mais aussi des groupes, ça peut faire changer le fonctionnement. Parcoursup, ça a d'ailleurs beaucoup évolué hein, depuis le début. Et puis, le fonctionnement, comme ça a été le cas pour la médecine, d'un concours. Delphine Espagnol.
Oui, ça marche. Ça marche pas toujours, mais ça marche. C'est-à-dire que effectivement, lorsque le juge examine un certain nombre de recours, et alors dans le cas de médecine c'est quand même particulier, mais un certain nombre de plaintes hein, portées devant lui, notamment ça a été le cas pour la sélection en master, hein, les nombres de plaintes qui ont été portées contre la sélection en master, notamment au départ, au moment où elle a été instituée, ont permis de faire évoluer cette manière de sélectionner, de contraindre les institutions universitaires à appliquer les règles, parce qu'il fallait que les institutions universitaires prennent les règles de droit au sérieux pour effectivement appliquer les textes, ce qui a conduit à l'adoption d'une...
Les textes, c'est-à-dire quels textes?
Alors, ça a conduit à l'adoption d'une nouvelle loi en matière de sélection en master, puis d'un nouveau décret. Concernant la médecine, c'est un peu différent. Je dirais, le contentieux médecine aujourd'hui, passe là, c'est un contentieux qui est principalement lié à la rédaction elle-même de la réforme et la manière dont la réforme a été mise en œuvre sur l'ensemble du territoire, avec des différences entre les universités et les facultés de médecine. Il n'y a pas eu d'harmonisation des règles, et c'est-à-dire que chaque université de médecine, sous prétexte évoqué par le ministère de l'autonomie des universités, ont eu la possibilité de décider comment elles allaient procéder à la sélection, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez plusieurs phases, plusieurs étapes de sélection. Une première étape qui est le concours avec les grands admis, ces étudiants-là qui sont parmi les premiers dans le numerus apertus passe en deuxième année.
L'oral n'est pas voilà. un sujet, voilà.
Et ensuite, ceux qui sont, et qui était le cas de, vraisemblablement de Louis Calbert, ceux qui sont susceptibles d'être aux secondes épreuves, c'est-à-dire de passer un oral nouveau, hein, une épreuve nouvelle instituée par la réforme, qui consistait en fait à être un oral un peu l'équivalent de ce que l'on considère, nous, en fac de droit et dans les établissements comme Sciences Po, de culture générale, mais
alors,
avec
ce qu'a dû faire Louis Calbert, c'est commenter une gravure du 19e siècle.
Voilà, c'est ça.
Alors, une gravure qui a un rapport avec la médecine, évidemment, mais un petit peu loin de l'enseignement scientifique.
La difficulté étant que sur la proportion et le coefficient de cette note de l'oral était variable, et même très variable, en fonction des facultés de médecine. Dans certaines universités, ces épreuves du second groupe comptaient pour 30% de la note finale, dans d'autres pour 70%. Donc ça vraiment créé, pour le coup, une réelle rupture d'égalité entre les étudiants en médecine. Et donc, ça a conduit à une mobilisation, alors là, des parents, alors très très impressionnante, Annabelle en parlera.
Et très rapide.
Très rapide, sur des gens qui n'étaient pas des gens qui étaient politisés, Annabelle va l'expliquer, et qui ont eu un effet, effectivement, d'entraînement avec d'autres collectifs qui sont allés jusqu'au Conseil d'État. Et le Conseil d'État leur a donné raison, en effet, en partie, en tout cas, en décembre, là.
Alors, avant de repasser à Annabelle Allouche, est-ce qu'il faut comprendre que les acteurs, les individus, peuvent être des régulateurs du droit par leur action de plainte, et ça vaut pas que pour les études de médecine, pour changer les choses, donc pas seulement pour soi, mais ça part des individus. Est-ce que c'est une forme de régulation ?
Oui, il y a une part de régulation de la sorte, puisque, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les règles de droit, quand elles sont prises, que ce soit une loi, un décret, il y a toujours une marge d'interprétation. Et les différents acteurs vont s'engouffrer dans ces marges-là pour essayer de faire valoir l'interprétation qui leur donnerait raison. Le bon avocat, c'est pas celui qui connaît le droit, c'est celui qui sait faire dire au droit ce qu'il a besoin qu'il dise pour avoir raison.
Et c'est un professeur de droit public qui le dit.
Eh bien oui. Et donc, si vous voulez, bien sûr qu'il y a la volonté des différents acteurs de se saisir, d'essayer de faire valoir leur interprétation. Et ensuite, ça permet de faire évoluer les choses. Si vous prenez le contentieux du master, les universités, au début, n'ont pas bien perçu la nécessité absolue de publier un certain nombre de règles selon lesquelles elles sélectionnent. Elles ont été condamnées. Désormais, elles font beaucoup mieux de ce point de vue-là. Et parfois, la condamnation du juge conduit à réécrire la règle ou à revoir...
Et donc à l'améliorer.
Et souvent à l'améliorer. Oui, oui,
donc il ne faut pas avoir peur de cette judiciarisation.
Non, enfin... Il y a quelque chose qui est absolument essentiel.
Je vais dire l'inverse dans deux secondes.
Ouais, non, mais quelque chose d'essentiel, c'est que la judiciarisation, c'est aussi une mise en œuvre de l'état de droit. C'est-à-dire que on fait valoir des droits qui sont écrits parfois dans la Constitution, parfois dans des textes internationaux, parfois dans des lois. Et donc, le fait de pouvoir recourir à un tiers quand il y a un conflit et de pouvoir faire dire par ce tiers ce qu'est la bonne interprétation du droit, c'est tout simplement l'état de droit, c'est une garantie fondamentale.
Mais encore faut-il comprendre ce que c'est que le droit, savoir qu'on peut faire appel à des avocats. Là, on parle d'étudiants en médecine, alors certains parents sont très dotés socialement, et puis vont peut-être entraîner les autres, et ça va faire un mouvement collectif qui sera peut-être assez mixte socialement. Mais si on pense à des élèves de lycées professionnels, de gens qui ne dépendent pas de Parcoursup, et de familles dont on dit qu'elles sont plus éloignées de la culture scolaire, je ne vais pas vous apprendre la sociologie, Annabelle Allouche, vous êtes sociologue, on ne va pas avoir le même type de recours. Donc, il y aura des gens qui vont davantage utiliser cette ressource qui est devenue le droit.
Absolument. Ce qui est scandaleux, en fait, c'est qu'on n'est pas égaux devant le droit. Le problème, c'est qu'effectivement, dans notre enquête, on a bien vu que c'était les classes moyennes et supérieures qui étaient en position de faire valoir leurs droits, plus que les autres, et largement plus. Alors que les situations sont communes, en fait, hein, à des élèves de milieux sociaux et de filières différentes. Et le vrai problème, le vrai hiatus, il est là, en fait. C'est qu'il y a une inégalité fondamentale à l'accès aux droits. Et dans un système où l'usager devient régulateur de l'école et de l'université, en fait, tout le monde n'a pas le même droit à faire valoir son droit.
Donc, c'est une dérive du droit. On vient de dire, oui, bah voilà, c'est régulé, enfin, ça régule, donc peut-être que c'est bien. Et en même temps, non, parce que ça ne va pas forcément réguler partout de la même façon et finalement à égalité pour tout le monde. Pour aller vite, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, c'était déjà injuste avant et ça l'a toujours été? Et finalement, les gens acceptaient mieux l'injustice scolaire et peut-être socio-scolaire? Ou est-ce que s'ouvre un nouveau champ et qui va se démocratiser et que finalement les gens sauront mieux se défendre un peu plus généralement dans la société?
Annabelle. Effectivement, il y a toujours eu un sentiment d'injustice. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la place de l'usager, notamment du parent dans le système scolaire et universitaire. C'est-à-dire que fur et à mesure des changements du droit et des lois, mais aussi la liberté, l'assouplissement de la carte scolaire, donc avec une plus grande reconnaissance de la liberté du choix d'établissement dans le secondaire, mais aussi donc loi Jospin de 1989, intégration des parents dans ce qu'on appelle la communauté éducative, les parents prennent plus de place dans un système qui autrefois les excluait. En fait, traditionnellement, l'école, l'université exclut le parent, et bien il y a plus de revendications et donc potentiellement plus de plaintes qui sont liées à cela. Et par ailleurs, comme l'ont bien expliqué mes collègues, les usagers du service public en fait bénéficient de droits plus importants, ce qui est dans l'absolu très bien au nom de l'état de droit. Là où le bas blesse en tant que sociologue, mais en général, c'est qu'il y a une inégalité fondamentale dans l'accès à ce droit, principalement entre classe moyenne et supérieure et milieux plus populaires.
Mais l'idéal de justice ou en tout cas, d'organisation suffisamment bonne, d'un système qui permet aux étudiants qui travaillent voilà, d'aller dans les filières où ils souhaitent aller et de réussir leurs études, ne devrait-il pas émaner de l'institution éducative elle-même, de l'université? C'est-à-dire qu'on a besoin d'institutions en qui on peut avoir confiance. Enfin, on peut pas demander au droit, je vous pose la question inverse par rapport à tout à l'heure, Philippe Rimbaud, on ne peut pas demander au droit de régler tous nos problèmes.
Non, on ne peut pas demander au droit de régler tous nos problèmes. Après, penser que laisser la porte ouverte à l'étudiant de faire ce qu'il veut est la solution, enfin, personnellement, je ne suis pas du tout convaincu. Parce qu'auparavant, qu'est-ce qui se passait? On avait des étudiants qui allaient dans le mur, alors que statistiquement, on savait qu'ils allaient dans le mur. Et...
Non, mais là, oui. Vous n'êtes pas d'accord.
Oui, c'est sûrement là qu'on n'est pas d'accord.
Delphine Espagnol.
Moi, je ne suis pas d'accord sur ce point-là. C'est que je pense qu'on fait vivre à ces générations d'étudiants des choses absolument incroyables. C'est-à-dire qu'effectivement, ils arrivent à la fin d'un cycle secondaire en qui on va leur demander de se mesurer à leurs copains pour pouvoir entrer, accéder, demander l'autorisation d'accéder en premier cycle. Puis après, on va leur demander l'autorisation d'accéder en second cycle. Donc, il y a quand même un système qui était injuste. Parce que c'est vrai, il faut du capital procédural, il faut être doté culturellement pour saisir le droit, etc. Alexis Spire l'a très bien expliqué, mais pourquoi ne pas laisser la chance à ceux qui le souhaitent de faire des études supérieures? Mais parce que tout simplement, la question, elle est budgétaire et de moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment les moyens d'accueillir tout le monde.
Philippe Rimbaud, vous avez 15 secondes. Est-ce que la réorientation, par exemple, c'est aussi une solution?
La réorientation, par exemple, Parcoursup aujourd'hui permet beaucoup plus de réorientation, en tout cas les met en lumière. Parce que voilà. Mais les met en lumière et les rend visibles de manière intéressante. C'est un effet, pour le coup, qui ressort depuis un an ou deux, où on voit beaucoup mieux les réorientations s'opérer.
Dans un système continu d'ajustement, pression des usagers, pas seulement par les plaintes, mais c'est ce qu'on aura entendu ce soir. Merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre dont nous parlions, Contester Parcoursup, c'est publié aux presses de Sciences Po. Merci à Avril Ventura qui a préparé cette émission avec moi, à Perret Legras qui l'a réalisé, et à Florent Bujon qui était à la prise de son ce soir.